Sud des provinces de Namur et de Luxembourg. Ailleurs, de belles éclaircies. Le ciel est carrément dégagé en bord de mer. Et puis, les températures sont plus respirables. Hein, vous l'avez remarqué, de 20 à 25 degrés. Voilà pour les températures actuelles. Et puis, la nuit prochaine, on va mieux dormir, hein, puisque les températures descendront entre 9 et 14 degrés. Une nuit très peu nuageuse et puis complètement sereine en seconde partie de nuit. On va donc se réveiller avec un beau ciel bleu ce lundi. Et puis, quelques cumulus vont bourgeonner dans le ciel l'après-midi jusqu'à 25 degrés. Notamment la capitale, peut-être même un peu plus en province de Limbourg, à Hasselt notamment, 20 degrés au littoral et 21 degrés en Ardennes. Mardi, ce sera la même journée, donc un ciel bien dégagé le matin, des cumulus qui bourgeonnent l'après-midi et puis le ciel qui se dégage en soirée jusqu'à 27 degrés sur le centre. Mercredi, encore moins de nuages et toujours 27 degrés sur le centre du pays. Jeudi, pratiquement aucun nuage dans le ciel et à partir de vendredi, des jours de chaleur à nouveau avec plus de 30 degrés à Bruxelles.
Madame, monsieur, bonjour. Une véritable marée rouge dans les rues de Bruxelles. Plusieurs dizaines de milliers de personnes se mobilisent contre les violences israéliennes dans la bande de Gaza. Situation identique dans d'autres pays, notamment à La Haye et aux Pays-Bas. Israël qui s'engage dans un autre conflit avec l'Iran, cette fois pour le troisième jour consécutif. Les deux pays s'attaquent à tour de rôle. En Iran, au moins 128 personnes, dont des femmes et des enfants, ont perdu la vie. En Israël, les salves de missiles iraniens ont fait au moins 10 victimes. Et puis, sans transition, parlons de sport. Tennis, Elise Mertens a remporté son premier tournoi sur gazon à Rosmalen. Dixième action de protestation à Bruxelles contre la guerre à Gaza. Énormément de monde, sans doute des dizaines de milliers de personnes, avec une couleur prédominante dans le cortège, le rouge, robe, t-shirt, pantalon, foulard, pour soutenir un message. L'État d'Israël a franchi toutes les lignes rouges à Gaza et il faut que ça cesse. Un témoignage recueilli cet après-midi, Michel Gasset, Benoît Romans.
On est là parce que voilà, on a un cœur et ce qui se passe à Gaza, c'est scandaleux, c'est une horreur. Il faut que ça s'arrête le plus rapidement possible.
C'est important pour nous parce qu'on n'accepte pas qu'un État tue les Palestiniens. On veut qu'ils arrêtent ce génocide.
Ça fait beaucoup trop longtemps, pour ne pas dire que ça fait depuis toujours, que ça dure, et que je pense qu'il est temps de mettre un stop à ce qui se passe, au génocide qui se passe à Gaza.
Il faut que tous les peuples aient un lieu où vivre. Ce n'est pas quelque chose contre le peuple juif, c'est quelque chose d'universel, que tous les êtres humains ont le droit d'avoir un lieu où vivre sans être massacrés injustement.
Il s'agit de la plus grande manifestation de solidarité avec la Palestine jamais organisée en Belgique. Autre conflit dans lequel Israël est engagé, celui avec l'Iran, des fumées et des décombres à Téhéran en Iran, des fumées et des décombres à Bat Yam en Israël. Israël et l'Iran poursuivent leurs frappes croisées. Cet après-midi, la population israélienne a dû se mettre aux abris lors d'une nouvelle alerte aux missiles iraniens. Cette nuit, Israël n'a pas pu neutraliser tous les missiles d'Iran et la ville de Bat Yam, au sud de Tel Aviv, a été touchée. Bilan de ces dernières 24 heures, selon les secours israéliens, 10 morts et plus de 200 blessés. Des membres du gouvernement israélien qui ont initié cette escalade vendredi par une vaste attaque de l'Iran se sont rendus sur place et le Premier ministre Benjamin Netanyahou, qui communiquait devant les décombres, y a vu une raison de continuer les frappes sur l'Iran.
Nous sommes ici parce que nous sommes dans une guerre existentielle maintenant compréhensible pour tous les citoyens d'Israël. Pensez à ce qu'il se passerait si l'Iran disposait d'armes nucléaires pour atterrir sur les villes israéliennes. Pensez à ce qu'il se passerait si l'Iran disposait de 20 000 missiles de ce type. Une menace existentielle pour Israël. L'Iran payera un prix lourd pour le meurtre des civils, des femmes et d'enfants qu'il a commis intentionnellement. Nous atteindrons nos objectifs et nous les frapperons. Nous leur porterons un coup écrasant. Ils sentiront notre puissance.
Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, qui dit vouloir frapper tous les sites et les cibles du régime iranien. Ces dernières heures, selon les autorités iraniennes, 128 personnes ont été tuées en Iran, dont des enfants et quelques 900 autres blessés. Le commandement de la police à Téhéran a été touché, ainsi que des dépôts de carburant et des cibles militaires. Aujourd'hui, Donald Trump se dit ouvert à ce que le président russe Vladimir Poutine joue un rôle de médiateur dans le conflit entre Israël et l'Iran, un conflit dans lequel laquelle il est possible que les États-Unis s'impliquent, a encore précisé le président américain. Et puis toujours dans l'actualité internationale, le président français Emmanuel Macron lui est arrivé au Groenland. Dès son arrivée, il a exprimé son désaccord avec Donald Trump qui entend annexer le territoire. Ce n'est pas ce qui se fait entre alliés, a-t-il déclaré. Chez nous, le ministre de la Santé, Frank Vandenbroek, va lancer dans les prochains jours un appel à tous les acteurs de la santé, des mutualités aux patients, en passant par les organisations de médecins et de pharmacies. Il a détaillé sur le plateau de VTM quel était son projet, à savoir mener une grande réforme en matière de santé. Le relèvement de certains tickets modérateurs n'est pas un tabou, a-t-il expliqué. Si on veut conserver un système de santé payable, il faudra réfréner le recours trop facile aux urgences ou aux postes de garde des médecins généralistes. Il y aurait aussi du gaspillage, notamment lors de recours aux scanners, selon le ministre Vorhout. Et puis cette nouvelle réaction politique à l'annonce de la prise de contrôle de Bruxelles-Serreport par la région flamande. Pour le Parti socialiste, il s'agit d'une stratégie qui consiste à affaiblir progressivement les instruments fédéraux au profit d'un pouvoir régional flamand de plus en plus affirmé. À Mons, le dragon est mort, vaincu par Saint-Georges lors du combat dit Limson. C'est le point d'orgue du doudou, avec des milliers de Montoises et de Montois dans les rues. Sur la Grand Place, certains ont assisté au combat et ont pu se procurer le précieux crin tant convoité. Laurie Cailloub et Philippe Benoît.
C'est la gueule derrière moi, encore !
Ça y est, Saint-Georges a une nouvelle fois terrassé le dragon. De nombreux Montoises et Montois ont assisté au combat, certains de très près, depuis la corde.
Tous les ans, c'est à la corde, on est là, on arrive et on se bat quoi. Vas-y, si tu veux avoir du crin un petit peu, ça porte chance, tu l'attaches à ton poignet, tu fais un petit nœud, ça te met bien.
Qui a gagné le combat ?
Un peu tout le monde, je pense que le public a gagné aussi.
On se bagarre quand même pour essayer d'avoir le crin, mais dès le moment où quelqu'un tombe ou a envie de sortir, ben, c'est très... Enfin, tout le monde est bienveillant.
Le crin est le précieux Graal. Une fois le combat fini sur la Grand Place, la foule s'y rue pour fouiller le sable à la recherche d'un bout de queue du dragon.
Qu'est-ce que vous venez de ramasser alors ?
Ben, du crin, évidemment. J'ai vu des semelles de chaussures. Alors on a quand même beaucoup de crin. Des restes des personnages, mais là il n'y a plus grand-chose. C'est ce qui a été pris d'assaut en premier. Oui, on voit vraiment les stigmates de la souffrance des gens de la corde, quoi.
C'est un folklore qui est unique en Belgique, je crois.
L'air du doudou résonne à présent dans toute la ville et les Montois sont catégoriques, cette édition est réussie.
Avec tout ce qui se passe dans le monde, on dit que le quart d'heure n'est pas remonté en 1439. Mais cette année, il est remonté, donc la Troisième Guerre mondiale, ce n'est pas pour cette année. Ça, c'est un peu rassurant, quoi.
Bon, super bonne ambiance, super humain comme folklore. Et on reviendra encore l'année prochaine.
Reportage Laurie Cailloub avec Philippe Benoît. En tennis, c'est 2-10 pour Elise Mertens. La joueuse belge a remporté ce dimanche son 10e tournoi en simple sur le circuit WTA. Mertens a battu la Roumaine Elena Gabriela Ruse en finale à Rosmalen. Face à la 80e mondiale, la Belge était favorite, mais elle n'avait jamais réussi à gagner un tournoi sur gazon, ce qui lui a donc mis un peu de pression.
J'étais un peu stressée, certainement, parce que un titre sur gazon, c'est quelque chose de spécial. C'est pas pour toute la semaine. 10e titre aussi, ici sur gazon, presque à la maison, avec tous les fans de Belgique, de Hollande aussi. Donc pour moi, c'est quelque chose de vraiment super. Je pense que dans le deuxième set, j'ai mené 4-3, mais elle m'a breaké. Elle a vraiment fait un bon jeu. Mais ouais, dans le tie-break, je disais à moi que, OK, maintenant, un peu d'Alcatraz à Roland, je dois vraiment pousser. Et si je gagne, je gagne. Si je ne gagne pas, on a encore un troisième set. Mais ouais, c'était vraiment super que j'ai gagné en deux.
Elise Mertens interrogée par Christine Anquet dans la finale messieurs. Malheureusement, Zizou Berckx s'est incliné face au Canadien Gabriel Diallo. Ce sont les Ferrari qui ont dominé et gagné les 24 heures du Mans ce dimanche. Victoire de la Ferrari 83. Un pilote belge a toutefois réussi à tirer son épingle du jeu au volant d'une Porsche. Lorenz Vanthoor et ses coéquipiers s'étaient élancés derniers dans la catégorie hypercar. Ils sont remontés place après place et ont finalement décroché une très belle deuxième place devant deux autres Ferrari. Et puis rapidement en cyclisme, Pogacar remporte son premier Dauphiné. La dernière étape, c'est pour Martinez. Belle fin d'après-midi.
Retrouvez toute l'info sur le site et l'app RTBF Actu.
Sur la première place, au petit papier et à Régine Dubois.
En ce moment, la Volkswagen ID.4 dans sa nouvelle finition Business Sport est à partir de 349 € par mois hors TVA en renting financier pour les professionnels. Info sur Volkswagen.be.
En 2026, le papier, c'est terminé. La facturation électronique devient obligatoire. Mais pas de panique, avec Odoo, vous êtes déjà prêt. Odoo Facturation est entièrement gratuit, certifié PayPal et hyper facile à utiliser. Alors, on respire. Passez à la facturation électronique gratuitement dès maintenant sur odoo.com.
Directo Production et Publimarket présente. Olivier Laurent va faire chanter Bruxelles le 3 juillet prochain sur la plus belle place du monde. Jacques Brel, le spectacle, un concert unique sur la grande place de Bruxelles. Réservation ticketmaster.be.
Les deals de Dileze sont irrésistibles car nos brochettes de porc belges sont maintenant en un ravi acheté plus un gratuit.
Sur le grill.
Retrouvez tous les deals dans votre Deleuze du côté de la vraie vie.
Ah, Ellie se connecte.
Hello tout le monde, je fais la réunion dans ma nouvelle ID4, ok?
Ok, mais on te voit, t'es sur le parking?
Ouais, et qu'est-ce que t'en penses? Les jantes noires et le toit panoramique, ça en jette, hein?
Oui, mais tu nous rejoins ou...
Non, 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 j'ai mis les sièges massants, allez-y, commencez.
Ah bah attends, j'arrive.
Quel bonheur la Volkswagen ID4 dans sa nouvelle finition Business Sport, avec jusqu'à 543 km d'autonomie. Profitez de l'offre de lancement à partir de 349 € par mois hors TVA en renting financier pour les professionnels. Info sur Volkswagen.be.
La première présente une visite si capitale. Une comédie promenade burlesque et musicale de Bruno Bellevaux où vous traverserez de nombreux bâtiments emblématiques du vieux Namur. Les acteurs se chamaillent sur la manière de défendre la candidature de Namur en tant que capitale européenne en 2030. Jusqu'au 5 juillet. Info et réservation, lanef.be.
Moustique, l'hebdo qui pique, fait place à Moustique, l'esprit critique. Un nouveau slogan parce que Moustique, aujourd'hui, c'est bien plus qu'un hebdo. Un tout nouveau site aussi pour mieux vous raconter notre époque. Des infos qui vous parlent, un guide culture inspirant, les dernières tendances. Et pour 1 € seulement, profitez d'un accès numérique illimité. Moustique, l'esprit critique.
C'est un joli celui-là.
Il est pas très bien plié.
La première, doute, plein.
Jouer.
Les petits papiers.
Contempler.
Chanter. Pas mal.
Ouf. Ah bah, catharsis.
Les petits papiers.
Voilà, mais c'est des mots très puissants.
Régine Dubois.
Bonjour, bienvenue dans les petits papiers avec des mots inscrits sur des papiers et un métier à découvrir. Aujourd'hui, on n'est pas encore au cinéma, on est juste avant le grand écran dans ces petits papiers avec une invitée très spéciale. Lorsqu'un film se crée, il y a plusieurs étapes. L'écriture, où l'histoire se raconte une première fois. Le tournage, où elle prend vie à travers les acteurs, les actrices, les décors. Le montage, où elle s'écrit et s'inscrit dans le concret jusqu'à une version définitive de la narration. Une salle de montage, c'est un lieu de recherche et d'expérimentation, un lieu feutré, à l'écart de l'agitation du plateau, un lieu de découverte et de redécouverte aussi pour les réalisateurs ou réalisatrices. Notre invitée connaît tout ça par cœur, le montage, c'est son métier. Elle a monté 2 palmes d'or puisqu'elle travaille avec les frères Dardenne sur tous leurs films depuis La Promesse. Elle a aussi travaillé avec Joachim Lafosse, Roberto Minervini, Marianne Heller, Marc-Henri Weinberg, Jonathan Little et bien d'autres encore. Elle a d'ailleurs été admise à l'Académie des Oscars. Bonjour Marie-Hélène Dozo.
Bonjour.
C'est vrai que depuis le début, vous travaillez avec les frères Dardenne. C'est sans doute la plus longue fidélité, même s'il y en a d'autres dans votre parcours.
Oui, c'est un peu avec eux que j'ai vraiment découvert, enfin pas découvert le métier de monteuse, parce que j'avais déjà travaillé sur du documentaire, mais c'était vraiment le premier long métrage sur lequel je participais, qui était La Promesse. Et c'est un peu avec eux que le chemin s'est tracé, et en plus comme c'est une longue collaboration, les allers-retours entre les réalisateurs, c'est vrai que c'est des jalons qui marque un peu ma carrière de monteuse.
La fidélité, on suppose que ça aide, mais ça peut être un danger aussi. Il faut faire attention, il faut penser à se renouveler, à se remettre plus en question quand on travaille souvent avec les mêmes personnes.
Oui, bien sûr, mais en même temps, moi je pars un peu du principe, et ce principe, c'est même pas un principe, c'est un peu la réalité, c'est que chaque projet, même si c'est une même équipe de réalisateurs ou de réalisatrices, il y a un projet, il y a une histoire, et à chaque fois, ses spécificités. Il y a les comédiens qui amènent aussi leur propre énergie, leur image, leur manière de parler, de bouger, tout ça. Donc, il y a à chaque fois des enjeux très particuliers pour chaque projet. Je pense que la fidélité, Je ne sais pas si c'est un confort. C'est en même temps, chaque fois, je me dis oui, je les connais bien, leur cinéma. Bon, ils ont un cinéma qui est inscrit, même si chaque histoire a ses propres challenges. Là, si on peut comparer Tori et Lokita et le dernier film ici, Jeune Mère, c'est pas du tout le même type de narration. Donc chaque fois il y a des enjeux et chaque fois, enfin c'est pas que je commence la peur au ventre, mais chaque fois je me dis bon ben on va essayer d'y arriver, on va essayer de faire ça au mieux, et chaque fois c'est une énergie qui est renouvelée quand même. Oui. Et puis on arrive aussi avec des états, on a 3 années qui, voilà, on a vécu chacun des choses, que ça soit dans le milieu professionnel ou dans le milieu privé, différentes, donc on arrive chaque fois chargé de choses différentes, et c'est quand même, voilà.
On va en reparler hein, de ce rapport, cette complicité entre monteuse et réalisateur, réalisatrice. Je voudrais vous demander, Marie-Hélène Dozo, pour commencer quand même, comment vous êtes arrivée au cinéma et sur les raisons qui ont fait que vous avez fait une école de cinéma ?
Je suis namuroise, j'étais dans une section artistique à l'IATA, plutôt dessin, peinture, voilà. Et puis il y a une option photo qui s'est ouverte, à laquelle je me suis inscrite, et puis une section audiovisuelle pour les 2 dernières années. Et dans ces 2 dernières années, j'ai un peu expérimenté tous les postes, mais dès le début, c'est vraiment là que je me suis sentie le mieux, c'est dans cette salle de montage, à manipuler, à essayer de comprendre les enjeux du projet, les objectifs du réalisateur. Et puis en fait, j'aime beaucoup la lecture, j'aime beaucoup... Enfin, on peut dire que le montage, c'est une simplification, mais je trouve que c'est assez... imager, c'est écrire des histoires avec des images et des sons. Et voilà, et moi je me suis très vite trouvée à l'aise là-dedans, dans cette intimité-là. Je pense que je suis quelqu'un qui aime bien un vase un peu clos. Quand on a des enjeux sur un plateau de tournage, c'est pas du tout les mêmes. Comme je l'avais déjà expérimenté durant ces 2 années-là, je me suis très vite dirigée vers une section de montage j'ai en fait passé les examens d'entrée à l'IAD à l'INSAS. J'ai été acceptée à l'IAD et j'ai choisi montage et j'ai continué mon chemin par là.
Et vous avez fait vos études à l'IAD ?
Oui. J'ai fait mes études à l'IAD.
À Louvain-la-Neuve, donc l'Institut des Arts de Diffusion.
Tout à fait.
Qui forme au métier de l'audiovisuel, du cinéma, aux comédiens aussi, au théâtre. Voilà. Marie-Hélène Dozo, le principe de cette émission, c'est qu'il y a des mots sur des papiers. Ils sont devant vous. Je vous propose d'en choisir un. Ah. Et puis vous me dites ce que ça vous inspire par rapport à votre parcours, votre travail.
Ah. C'est un joli celui-là. Émerveillement. Ben, c'est ce à quoi on tente, en tout cas. C'est un peu l'objectif. C'est-à-dire qu'il y a une découverte d'une matière qui est, évidemment, suivant ce que c'est une fiction ou un documentaire, elle est un peu différente, mais il y a une masse de matériel assez conséquente. Et le but, c'est d'arriver... d'abord, c'est... Un premier émerveillement, c'est de la découvrir.
Oui, parce que ce qu'on peut peut-être dire pour situer aux auditeurs et aux auditrices, c'est que vous, en tant que monteuse, vous n'êtes pas sur le plateau de tournage. Vous avez lu le scénario, mais les images, vous les recevez. Donc, vous êtes totalement à l'écart et vous découvrez finalement ces images par rapport au scénario que vous avez lu, avec un regard tout à fait neuf, neutre.
Oui, on lit un scénario, on se fait des idées. Ouais. Mais après, il y a le tournage, il y a l'incarnation dans les comédiens qui est déjà une première étape. Il y a le visuel aussi. Donc tout ça est quand même beaucoup plus large que les idées qu'on a pu se faire. Et puis, je dirais qu'on est aussi les premières personnes, les premiers spectateurs de cette matière-là. Moi, je pense que je suis quelqu'un d'assez instinctif. Donc, cette matière-là, je la perçois d'abord au niveau de ce qu'elle me procure à moi comme émotion. Je pense que les émotions au cinéma, elles font partie de la narration, elles sont les premiers guides. Mm-hmm. Et à partir de là, à partir de ces scènes qui m'émerveillent plus l'une ou l'autre, il y a déjà des choix qui se font. J'aime beaucoup découvrir la matière seule, si c'est possible. Ah oui. Ça dépend un peu des réalisateurs, ça. Mais je m'adapte en général au processus.
Pourquoi vous préférez découvrir seule?
Parce que c'est un contact direct, il n'y a pas déjà les premiers filtres, peut-être des intentions. Intentions, bon, moi je les ai peut-être lues et découvertes dans le scénario, mais les réalisateurs, ils arrivent avec leur expérience de tournage. Oui, ça peut d'une certaine manière me guider, et j'aime vraiment bien avoir cette première étape pour moi. D'abord parce que je suis un train en retard. C'est sûr. Mmh. Et donc, j'aime bien avoir cette première
un train en retard par rapport à ce qui s'est passé.
Par rapport à toute leur approche, au tournage, évidemment, et au temps qu'ils ont déjà passé, eux, avec leur histoire, et puis avec leurs comédiens, et puis avec leur image. Moi, j'arrive à peut-être... allez, si un film prend plus ou moins 4, ça dépend un peu des équipes, avant qu'on arrive au stade du montage, moi, j'arrive là, il y a déjà... une vie qui s'est passée autour de l'histoire, autour des personnages, de leur caractère, de leur psychologie et tout ça. Et j'aime bien avoir ne pas arriver déjà avec un certain bagage. Et puis en fait, ce qui est assez chouette aussi quand je propose un premier montage, qui est un premier montage assez... Moi, je l'appelle toujours assez neutre, parce que c'est un assemblage de toutes les scènes qui ont été tournées. Quand les réalisateurs arrivent en salle de montage, on peut visionner cet ours-là, ce qu'on appelle un ours ou un premier assemblage. Et on a déjà un premier fil de narration. Et on peut déjà avoir une première discussion au niveau des lignes de force de l'histoire. Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui fonctionne pas? Quelle est l'évolution des caractères aussi? Est-ce que ça marche ou est-ce qu'ils sont finalement à l'envers parce que peut-être le choix des prises n'est pas encore le bon? Et donc, on repart de ça, mais on reparcourt tous les rushs et les prises. Mais on voit déjà un peu l'ossature de l'histoire.
Ce moment de découverte des premières images, oui, vous parlez de l'émotion, de ce qu'elles peuvent provoquer, mais est-ce que c'est un moment aussi un peu d'émotion, un moment un petit peu sacré peut-être de découvrir les premières images de quelque chose sur lequel on va passer souvent beaucoup de temps?
Oui, oui, c'est un moment un peu magique, en fait. Ouais. C'est vraiment magique de se trouver face à ça. Et puis, il n'y a rien à faire quand on lit un scénario, que ça soit en fiction, mais même en documentaire, de plus en plus, au niveau des dépôts des dossiers, tout ça, il y a quand même déjà quelque chose de très précis, même si la réalité va prendre le pas et va amener d'autres éléments. Mais on s'est fait quand même plus ou moins déjà une histoire, et puis on la voit incarnée. Et c'est vrai qu'il y a des moments de grâce dans la découverte des rushs, et parfois dans la découverte d'un moment, il y a quelque chose qui s'est passé sur le plateau, il y a une connexion qui s'est faite entre les comédiens, la caméra, et on voit déjà les prémices de ce que ça pourrait être, même dans des bribes et des moments de l'histoire, en fait. Et puis après, bon, il y a tout l'assemblage et créer les vrais liens, créer les vrais temps, parce que je pense que le montage, c'est un peu... Et l'émerveillement, il revient aussi à ce moment-là, parce que, bon, il y a l'émerveillement du début, puis il y a un long travail de labeur, de manipulation, d'essai, il y a de nombreuses tentatives, il faut garder l'émerveillement d'une certaine manière, à certains moments on le perd, et en bout de course je pense que on le retrouve vraiment, cet émerveillement, et j'ai l'impression que cet émerveillement, en fait, c'est on a plusieurs visions en cours de montage, mais il y a un moment donné, il y a une vision où on s'est dit ça y est, on est bon, on n'est pas tout au bout, on a peut-être encore 15 jours, 3 semaines de montage, mais c'est plus des micro-dosages, mais on a vraiment trouvé, je pense que j'ai déjà partagé ça avec les réalisateurs qui eux aussi à un moment donné, ils disent « Ah ok, là, on est bon, on est bien, on va vraiment terminer tous les ajustements, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais la structure est là, le film est là, les personnages sont là ». Et cet émerveillement, on le retrouve aussi à ce moment-là, même si on l'a perdu à un moment donné, parce que ça peut arriver.
Est-ce que ça peut arriver aussi, Marie-Hélène Dozo, en salle de montage, quand on découvre les premières images, d'être déçue?
Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver, mais il y a une force qui est véhiculée quand même par le réalisateur, par des intentions. Et parfois, ça m'est déjà arrivé d'être vraiment... Je me dis, oh, waouh, c'est fragile. Comment on va naviguer à travers tout ça? Et je me rends quand même compte que assez souvent, le réalisateur, ses intentions, elles sont là. Si le travail est là, après, quand il n'y a pas le travail, c'est plus compliqué. Mais si le travail est là, les intentions sont là. Et je pense que le métier de monteur et de monteuse, c'est vraiment d'aller chercher toutes les choses et de les faire repasser au-dessus et de retravailler avec ça et de trouver les bons agencements.
Les petits papiers.
Marie-Hélène Dozo, monteuse cinéma, est notre invitée dans Les Petits Papiers. Elle a monté le dernier film des Frères Dardenne, Jeune Mère. Elle a monté tous les films des Frères Dardenne, d'ailleurs, depuis 1999. Et La Promesse, Jeune Mère, est à voir au cinéma pour le moment. Et nous, on commente avec elle des Petits Papiers. On va continuer dans un instant, mais on va d'abord écouter Bernard Lavillier avec Idées Noires, parce que Marie-Hélène, vous avez aussi monté Les Intranquilles de Joachim Lafosse en 2021 avec Leïla Bekti et Damien Bonnard. Et il y a une scène dans une voiture où on entend cette chanson. Idées Noires, Bernard Lavillier.
Il se lève, c'est l'heure, il écrase son égo. Dans sa tasse de café, éteint la stéréo. Éteint le lampadaire, éteint le plafonnier. Éteint dans la cuisine, mais la sécurité. Un couloir, une porte. Un lit, c'est la nuit. Quelques pistes pour dormir, je sais plus où je suis. Un store noir, une porte, un lit, c'est l'ennui. Rien à faire pour l'amour, mais ne dis pas toujours.
Où es-tu? Quand tu es dans mes bras, que fais-tu? Est-ce que tu penses à moi? D'où viens-tu?
Des mauvais rêves, je suis sur un mauvais câble. Dans la paranoïa, pas de marchand de sable. Je vois en panoramique, urgente et désirante. Une blonde décapitée dans sa décapotable. Cauchemar, highway, road trip, fumée noire. Une vente vorace tue au fond d'un couloir. J'en sors pas, cafard, Patrick. Idées noires, avalées par l'espace, au fond d'un entonnoir. Je veux m'enfuir.
Quand tu es dans mes bras,
je veux m'enfuir.
Est-ce que tu rêves de moi?
Je veux m'enfuir.
Bernard Lavillier sur la première Idée Noire qui figure dans la bande originale du film de Joachim Lafosse, Les Intranquilles, film qui a été monté par notre invitée, la monteuse de cinéma Marie-Hélène Dozo. Et Marie-Hélène, je vous invite à choisir un autre papier.
Passeuse. C'est bien, c'est écrit en grand, comme ça je peux voir, je peux mettre mes lunettes. Passeuse, ah bah oui, il est aussi tout à fait approprié par rapport à l'endroit où je suis, en fait, dans le processus de création. Je pense que dans ce métier, on l'est tous, d'une manière ou d'une autre. Après, comme le goulot des possibilités de ce qu'on offre aux spectateurs se rétrécit, on est vraiment à une des dernières jonctions entre toutes les intentions du réalisateur, tout ce que les protagonistes ont donné et tout ce que les techniciens ont donné, et on est un peu le dernier
pivot, dernier maillon, oui.
Oui, le dernier maillon vers le spectateur et vers la salle ou vers la télévision. Et je pense que oui, on est passeuse de plein de choses. On est passeuse d'émotions, on est passeuse de temps aussi, parce que je pense que le cinéma, c'est un film fini, c'est un temps qu'on crée d'une certaine manière. On est aussi créateur d'une certaine durée, d'un timing dans lequel une histoire va s'inscrire.
Vous le dites, on est passeuse effectivement des émotions, des intentions originelles du scénario, du réalisateur, de ce qui s'est passé pendant le tournage. C'est une responsabilité quand même d'amener ces intentions-là au spectateur. Mais on a aussi ses propres émotions qui forcément interviennent, qu'on le veuille ou pas.
Oui,
comment on arrive à doser, à gérer, à respecter ce qui est demandé et en même temps à se respecter soi par rapport à ce qu'on ressent?
Mais je pense que ça se reflète aussi dans la fidélité, c'est-à-dire que je pense qu'un réalisateur, je pense en tout cas c'est ce que j'expérimente, quand il a trouvé la bonne personne qui a la sensibilité, qui correspond à ses projets, il y a une fidélité qui s'installe. Et c'est sûr que moi j'arrive avec ma sensibilité, avec mon vécu, avec mes zones d'intérêt, avec ce que peut raconter un être humain dans une certaine durée. Donc oui, et sans doute que le fait que les réalisateurs me recontactent et tout, c'est que je, ma sensibilité correspond aussi au genre de projet qu'ils ont, sur lequel ils travaillent et qu'ils ont envie de partager avec le spectateur.
J'imagine qu'il y a des réalisateurs ou des réalisatrices qui ne vous recontactent pas aussi. Ça a dû vous arriver ?
Je touche un peu du bois.
Pas tant que ça ?
Pas tant que ça, je dirais. Allez, oui, j'ai eu des difficultés sur certains projets au niveau de la relation, que ça ne s'est pas fait, mais proportionnellement, il n'y a pas beaucoup. Même si j'ai une sensibilité, comme on vient de le dire, qui m'appartient, j'essaye aussi de m'approprier les intentions des projets, les intentions des réalisateurs, d'être à l'écoute, d'essayer de rentrer aussi dans une logique de création qui n'est pas forcément la mienne et dans laquelle je vais devoir... J'essaye de travailler toujours avec, pas contre. Je pense que, oui, le métier de monteur, c'est aussi ça, c'est parvenir à
se mettre au service
d'une histoire. Oui, bien sûr, il y a des projets où je suis, quand le produit est fini, plus en adéquation et que je peux défendre corps et âme. Et puis bon, parfois, il y a des projets sur lesquels il y a des petites choses que j'aurais peut-être pas fait comme ça, mais c'est assez rare.
Les petits papiers.
Marie-Hélène Dozo, monteuse cinéma, est l'invitée des petits papiers aujourd'hui. On part à la découverte de ce métier à travers des mots et je vous propose d'en choisir un.
Renoncer. Renoncer. Ça, par contre, je suis assez têtue.
Oui.
Et assez jusqu'au boutiste, je dirais. Les difficultés ne me font pas peur. Dans le sens où des difficultés dans ce métier et dans un parcours sur la construction d'un film, c'est sûr qu'on va en rencontrer. On en rencontre à différents stades. Alors, il y a deux manières. Renoncer, on peut l'employer de deux façons, peut-être dans cette façon-là aussi. Après, je sais aussi renoncer à certains choix que moi, j'aurais fait. Parce que je pense que le réalisateur, c'est lui qui a la genèse du projet. C'est lui qui va porter le projet jusqu'au bout. Et il faut qu'il ait toutes les armes pour pouvoir le défendre face à un public, face à une critique, face au monde, en fait. Ouais. Et donc, oui, je suis prête à renoncer parfois sur des choix que j'aurais fait, qui étaient les miens, mais qui ne s'inscrivent pas. En général, c'est quand même sur des petites choses, des détails et tout ça. Comme le parcours est assez long, il ne faut pas oublier que pour monter un film, on travaille quand même plus ou moins, je dirais, de manière générale, entre 3 et 5 mois, je dirais 4 mois, c'est plus ou moins le timing. Donc il y a des moments, oui, où c'est très difficile. Il y a confrontation aussi, il y a un moment qu'il faut parvenir à gérer calmement, avec beaucoup de sang-froid. C'est le retour des visions en cours de travail.
Oui, par des regards extérieurs.
Il faut savoir écouter, il faut savoir renoncer à certaines choses auxquelles on tenait.
Il faut aussi savoir ne pas se laisser démonter, j'imagine, à ce moment-là.
Réinterpréter aussi ce qui est pu être partagé lors de critiques, parce que parfois, il y a des choses qui sont pointées à certains endroits et ce n'est pas là, forcément, que ça doit se faire. Ça doit être peut-être avant, sur d'autres éléments qui font que les choses passent. Donc, il faut toujours revenir au basique, à ce qu'on veut raconter. Ouais. Nous, on connaît la matière, on ne peut pas l'emmener n'importe où, on ne peut pas écouter tout le monde, parce qu'il y a aussi, je pense, que chacun arrive avec son bagage et avec ses envies et tout ça, et ça ne rentre pas dans le processus d'écriture. Donc, renoncer, ça fait partie, on peut le placer à plein d'endroits différents.
Est-ce que Marie-Hélène Dozo, vous, en tant que monteuse, ces premiers regards extérieurs, c'est des moments que vous appréhendez ?
Oui. Oui, parce que on a envie que ça se passe bien, on n'a pas forcément envie que ça soit facile, mais on a envie que la matière soit là, on a envie que l'histoire soit là, parce qu'on ne peut pas faire des miracles non plus. Mm-hmm. On peut améliorer plein de choses, on peut faire des choix et réaiguiller le film vers... Mais bon, il y a une matière de départ qui est là, donc c'est sûr que cette première étape de découverte, on l'appréhende. Et je me souviens que parfois, j'avais une matière qui était très belle, mais qui était très difficile parce qu'il y avait des images qui étaient très, très fortes émotionnellement et qui étaient parfois difficiles à partager. En tout cas, au moment de la découverte, je me disais, mais comment est-ce qu'on va amener le spectateur à voir ces images où il y a quand même une forme de violence, où on peut se poser la question, ah oui, on a filmé ça, c'est une réalité. les gens peut-être se mettaient en danger face à la caméra. Est-ce qu'on intervient? Est-ce qu'on n'intervient pas? Et comment est-ce que moi, je vais amener le spectateur à pouvoir voir ces images-là? Parce que moi, j'ai peut-être 40 heures d'images autour d'une problématique qui peut être violente, qui peut être difficile à accepter, parce que parfois, la réalité des gens est difficile, mais c'est ce qu'ils vivent. Et comment, moi, qui ai vu 40 heures de rush, qui était à certains moments très émue, mais ça fait 40 heures, j'ai été préparée au fur et à mesure. Bon, je me suis
habituée. Oui, on perd de son regard neutre à ce moment-là.
On perd de son regard neutre. Mais moi, nous, on va avoir 16 semaines, on va devoir construire et amener le spectateur à voir ces images-là sur une durée d'une heure et demie, d'une heure 45.
Oui, lui, il va les voir une fois.
Lui va les voir une fois et il va en voir seulement après 5 minutes. Il va peut-être voir l'image violente que moi j'ai vue après 10 heures ou 15 heures de matière. Mais moi, je vais devoir lui montrer cette image-là, ou en tout cas, si on garde le choix de la montrer, je vais devoir amener le spectateur à pouvoir voir, l'emmener en empathie avec peut-être des gens qui ne partagent pas le mode de vie.
Et la première exposition au public, Marie-Hélène Dozo, est-ce que la monteuse que vous êtes, c'est aussi un moment qui lui fait peur?
Oui.
Ouais.
Oui, fort. Après, il y a des films où je suis plus...
Vous êtes plus rassurée?
Oui.
Vous sentez que ça va?
Oui, je sens que ça va. C'est pas... Voilà, je sens que ça va. Mais bien sûr. Mais après, ce qui est très chouette, quand on arrive comme ça et que c'est le premier partage, c'est de sentir la salle bouger. Il y a une énergie dans la salle, il n'y a rien à faire. On sent sa concentration ou pas. Parfois, on est surpris par des rires, par exemple. Je me souviens que, ça fait rire les... Ou des réactions, voilà, comme ça, qui sont plus surprenantes, auxquelles on ne s'y attendait pas. Mais surtout, c'est une question d'énergie et de souffle et de silence, en fait. Mm-hmm. Et même de respiration, de voir... Parce que la salle, elle n'est pas linéaire. Elle va bouger en fonction de ce qu'elle voit, les gens bougent ou pas. On sent la tension aussi qu'on a essayé de mettre et on sent comment elle s'imprime dans le public. Et ça, c'est aussi, c'est un beau moment.
Les petits papiers.
Marie-Hélène Dozo est notre invitée dans Les petits papiers. Si vous voulez découvrir son travail, Jeune mère est au cinéma, Jeune mère des frères d'Ardennes. C'est Marie-Hélène Dozo qui est au montage de ce film et de bien d'autres, évidemment. Et nous, on continue à commenter des petits papiers avec elle sur la première.
Questionner. Ah oui, ben questionner, oui, bien sûr. On questionne plein de choses.
On a déjà bien compris que vous questionnez la matière.
Hein. Oui.
Ça, c'est la première chose que vous questionnez.
Oui. Puis je questionne ma position par rapport à la matière.
C'est-à-dire?
Par rapport à mon vécu, à ce que, j'ai une personnalité, j'ai des choses que j'aime plus, que j'aime moins. Mais parfois, il faut aller dans de la matière qui parle de choses que je ne partage pas. Peut-être pas forcément.
J'allais vous demander, il y a parfois des questions éthiques qui se posent aussi pour vous, de dire « je suis pas sûre que j'ai envie de raconter ça » ou de présenter cette chose-là comme ça.
Oui. Ou cette facette-là du sujet, où je me dis « ça vient plus en... ça peut venir en documentaire, plus, je dirais, parce que comme la matière est beaucoup plus vaste et qu'on fait un choix de parole des différents intervenants, peut-être, oui, c'est des films sur le réel, mais il n'y a rien à faire. Le réel, on le choisit, on le construit, on le transforme. Donc, oui, il peut y avoir des discussions, en tout cas par rapport à ce que moi je ressens, par rapport à ce qui est dit, avec le réalisateur. On peut en discuter et voir effectivement si on va le garder ou pas.
Oui,
bien sûr. Oui.
Vous tournez en général, il y a le documentaire, mais même le cinéma, sur un cinéma qui questionne aussi. C'est pas un cinéma qui soit uniquement du cinéma de divertissement. Donc il y a un choix là aussi.
Oui. Je pense qu'il y a un choix. Il y a un choix, mais après, je pense que le sillon se creuse aussi par rapport aux gens qui me contactent.
C'est-à-dire qu'on ne va pas vous contacter pour la dernière comédie de Franck Dubosc. Peut-être moins facilement.
Jusqu'à présent, non.
Non, on ne sait jamais.
On ne sait jamais.
Vous accepteriez?
Je ne sais pas. Il faudrait que je voie le scénario. C'est toujours une question d'histoire. Ouais. Je ne sais pas.
Je vous ai interrompu. Pardon. On parlait des choix.
Oui, des choix.
Qu'on vient vers vous peut-être de manière plus...
naturel par rapport à ce que j'ai fait. Ça, je pense qu'il n'y a, y a rien à faire. Les gens, ils me contactent, bah oui, parce que j'ai travaillé avec les Frères Dardenne ou j'ai travaillé avec Roberto Minervini. Il y a toujours un nom dans le contact, en fait. Mais oui, moi, j'aime bien ce cinéma qui questionne, qui me présente des réalités auxquelles j'aurais peut-être pas eu accès dans ma vie, qui me questionne sur, le, sur des communautés que je ne connais pas, à laquelle que j'aime bien partager avec les gens qui sont les spectateurs et tout ça, et les amener à voir oui, des modes de vie, des choix, des vécus, des difficultés, des joies aussi des gens. Oui, pour moi, c'est important qu'il y ait ce côté-là, en fait.
Est-ce que Marie-Hélène Dozo, une palme d'or, et puis deux palmes d'or, ça donne plus de travail en tant que monteuse?
Oh, bah, en tout cas, ça assure une visibilité.
Ouais.
C'est sûr que ce parcours-là, il m'a permis, en tout cas, que les films sur lesquels je travaille soient vus un peu dans le monde entier. Et ça m'amène aussi des réalisateurs du monde entier, en fait. Et ça, c'est une vraie chance.
Ouais.
C'est une vraie chance d'avoir rencontré les frères et puis d'avoir travaillé sur des projets qui ont une portée internationale, parce que ben Roberto, il m'a contacté...
Roberto Minervini.
Minervini m'a contacté parce qu'il a vu les films des frères.
Là aussi, c'est une fidélité. Hein,
Oui. Tout à fait. Haroun Mahatmasaleh, même chose, qui est un réalisateur franco-tchadien. Là, je vais travailler avec une réalisatrice autrichienne, même s'il n'y a pas de production du tout en Belgique. Bah, elle m'a quand même contactée. Donc,
ça veut dire alors que vous partez en Autriche pendant quelques mois pour travailler ?
Ça peut arriver, oui. Je suis partie aux États-Unis, je suis partie en Chine, je travaille avec Wang Bing aussi. Oui, ça me permet de voyager aussi... pas mal. Mais surtout, c'est en fait, ce qui m'étonne toujours... Par exemple, là, j'avais travaillé avec Marielle Heller aux États-Unis aussi, Jonathan Little, qui est français. En fait, ce qui est quand même marrant, même si c'est des gens qui ont un autre... socialement, ont vécu d'autres choses que moi, ils ont une autre histoire, ils ont eu une autre éducation, une autre culture, parce que je pense que chaque pays a quand même sa culture et tout ça. Quand j'arrive là-bas... Peut-être c'est le fait de justement des choix de ce type de cinéma-là, mais j'ai l'impression de rencontrer des gens qui ont plus ou moins le même bagage que moi, et la relation se fait très très vite en fait.
Il y a une connexion.
Il y a une connexion.
Comme s'il y avait peut-être une famille de cinéma.
Une famille, oui, je pense qu'il y a une famille de cinéma, et puis que je pense que le cinéma c'est une vraie famille aussi. Je pense que c'est une communauté un peu à part. Je dis, enfin, comme les communautés de médecins, comme les communautés d'architectes, celles des journalistes. Je pense que c'est la même chose. On se retrouve aussi dans un espèce de micro. Cause, mais en même temps, j'aime pas trop ce mot-là, parce qu'on essaye d'être au maximum ouvert sur le monde et sur l'humanité.
On pose souvent la question aux frères Dardenne. Je vais vous la poser à vous aussi, parce que quelque part, vous n'y êtes pas pour rien. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand Rosetta est récompensée de la Palme d'Or ?
Oh, une énorme joie. Une énorme joie, parce que on ne s'y attendait pas du tout. Même si le film, nous, on y croyait. Enfin, je veux dire, il avait une énergie, une spécificité. Émilie était là, elle incarnait ce personnage, mais à 100%, elle faisait corps avec la caméra. Et je pense que déjà dans le tournage et tout ça, il y avait une vraie énergie, il y avait quelque chose de spécial autour de Rosetta et de ce que ça racontait, comment ça a été fait, comment ça a été filmé. C'était une joie immense, vraiment, je sais pas. Ouais. Que dire de plus que ça ?
Vous vous souvenez du moment où vous avez découvert les premières images de Rosetta, seule sans doute, peut-être dans votre salle de montage, les premières images de tournage, parce qu'on parlait tout à l'heure d'émerveillement et d'émotion.
Oui, je m'en souviens. Je me souviens de son visage. Je me souviens de ses yeux un peu cadrés comme ça, un peu à moitié. Puis je me souviens de sa marche aussi, de l'énergie de son déplacement, de cette volonté qu'elle avait de s'en sortir. C'était une battante, quoi. Donc peut-être cette énergie-là, elle nous a tous canalisés pour nous emmener là où est arrivé le film. Oui, je me souviens. Je me souviens des scènes au bord de l'étang. Je me souviens quand elle descendait dans la forêt avec ses bottes, tous ses rituels. Enfin, oui, c'est très présent dans ma tête. Mmh.
À l'instant sur la première, cet extrait de la bande originale du film Diary of a Teenage Girl de Marianne Heller. Et si on vous a fait écouter cette chanson, c'est parce que notre invitée Marie-Hélène Dozo, monteuse cinéma, est aussi à l'origine du montage de ce film sorti en 2015.
Écoute, oui, bah oui, oui, c'est aussi un... Moi, j'arrive avec un bagage, c'est sûr, avec une expérience, ouais. Mais j'essaye d'être vraiment le plus à l'écoute possible, d'abord de la matière, pour moi. Et c'est pour ça que je crois que j'aime bien découvrir la matière seule. C'est d'être vraiment le plus en contact direct avec elle et de trouver ses points de force, ses points de faiblesse, ses points d'émerveillement, son énergie. Vraiment d'être vraiment en contact avec elle au plus près.
Ouais.
Et d'être à l'écoute. Je ne vais pas imposer des choses à une matière. Je vais la travailler petit à petit avec douceur, avec empathie.
C'est elle qui vous guide. C'est la matière qui guide.
Quand même.
Ouais.
Quand même.
Mm-hmm.
Parce que voilà, tout est là. Normalement, le réalisateur, toutes ses intentions, tout ce qu'il a envie, ça a été incarné dans le corps des personnages, ouais. Dans la manière de positionner la caméra, dans les mots qui sont dits. Donc tout est là. C'est notre, ouais. Et notre convergence à deux ou à trois, c'est vraiment, on a un triangle en fait.
Ouais.
Et la matière, elle a une force qui est là. On doit juste l'écouter et la travailler. On peut pas aller contre.
Alors Marie-Hélène, quand même, j'imagine que parfois, il faut aussi écouter le réalisateur, les réalisateurs, la réalisatrice qui est dans votre salle de montage, et que c'est aussi peut-être un travail un peu de diplomatie, de l'amener à accepter. On avait le mot renoncer tout à l'heure, mais c'est aussi ça. Oui. Il faut parfois renoncer à des séquences auxquelles on tient. Mmh. Les jeter parce qu'elles ne sont pas utiles. Donc, c'est aussi votre travail. Ça veut dire que pour faire ce métier, il faut aussi être à l'écoute et être un peu psychologue, ou je ne sais pas comment on peut dire.
Oui, je pense que c'est très important. Puis, il faut créer des liens de confiance.
Ouais.
Sans la confiance, on ne peut pas travailler, je pense. C'est pour ça que quand je commence un film, je suis à l'écoute de la matière, je suis à l'écoute du scénario, et je mets tout. Je dirais, donc tous les éléments sont là, parce que j'ai besoin de tout ça, j'ai besoin de petit à petit m'approprier la matière aussi, j'ai besoin de temps pour pouvoir faire les choix, proposer les choix, mais il faut qu'il y ait une relation de confiance qui s'établisse dès le début, et je pense que c'est déjà tellement violent pour un réalisateur de se retrouver face à un premier montage de 2 heures de ce qu'ils ont rêvé, pensé, analysé, structuré pendant autant d'années. C'est déjà voilà, ils se retrouvent, ouais, face à ce qui est, et il va falloir faire avec ça,
ouais,
qu'il y a tout un travail d'approche qui doit être fait. Et je pense que en assemblant la matière d'un film, je pense que c'est très difficile de dire ça n'y sera pas,
oui,
et je le mets pas.
Oui, oui.
Parfois, on sait à l'inverse, il y a des choses où on était sûr que c'était une super scène, et malheureusement, elle ne trouve pas sa, ouais, place dans la narration. Donc tout ça, c'est une question d'équilibre, et il y a tout un chemin pour arriver au juste.
Jean-Pierre Dardenne, il dit le montage, que ce n'est pas un moment facile, car c'est là qu'on lâche le film en tant que réalisateur. Et c'est vrai que le film, il le lâche dans vos mains.
Oui, ouais.
Oui. Il reste là. Hein,
il reste là.
Oui. Tous les réalisateurs restent là.
Mais oui, je pense. Et, c'est vrai que comme je commence à monter en amont et à visionner la matière pendant que eux sont encore en tournage.
Là, on parle des films avec les Dardenne,
oui,
spécifiquement.
Spécifiquement. Ouais. Bah, c'est sûr qu'ils aiment bien avoir un premier tour quand j'ai commencé à visionner. Et
déjà pendant le tournage.
Oui, un petit peu. Oui, ça, j'essaye toujours de leur donner un. Mais pas un retour. Feedback.
Est-ce que ça veut dire, Marie-Hélène, que vous pouvez aussi, à un moment, intervenir en disant il manque peut-être un truc là où il faudrait peut-être...
Ça peut arriver. Je pense qu'avec eux, c'est jamais arrivé.
Ouais.
Parce que je pense que la matière est vraiment là, elle a été pensée, mais ça peut arriver. Parfois, par exemple, sur des expériences plus de documentaires, on travaille en plusieurs parties. C'est-à-dire, il y a une première partie de tournage, il y a une session de travail, on discute, et puis il y a une deuxième session. Donc forcément, les choses dont on a discuté peuvent avoir des conséquences sur la deuxième partie du tournage. Donc ça peut arriver.
Est-ce que vous allez parfois sur les plateaux de tournage ? Ça vous arrive ?
Non, j'ai été une fois sur le film des frères, je pense que c'était pour remplacer la script qui était absente 2 jours. Je crois que j'ai été 2 jours sur le plateau.
Mais même pas en visite ?
Non.
Non ?
Vous en général, je suis à l'écart sur un autre film.
Oui.
Souvent. Par exemple, sur le film de Roberto, The Other Side, là j'étais allée une semaine sur le plateau.
Roberto Minervini.
Voilà.
Et ça change quoi d'aller sur le plateau ? Parce que vous, les comédiens, les comédiennes, vous les voyez à travers votre écran, mais vous ne les rencontrez jamais. Donc...
Sauf aux premières. Voilà, ça m'a permis un peu d'être en contact avec eux et de les voir en vrai. C'est assez différent, en fait. Il n'y a rien à faire. C'est une caméra, elle a son action sur les visages, sur les gestes et tout ça. Et puis, moi, en fiction, en tout cas, les comédiens, je les connais dans leur rôle. Quand je vais sur un plateau,
il y a des moments où on s'arrête, où on mange, où on discute.
Différents. Il n'y a rien à faire, ils sont différents. Et parfois moi j'oublie, je suis tellement en contact avec le personnage du film que je me dis qu'ils doivent être comme ça, mais en fait non.
Oui, quand vous les rencontrez aux premières, c'est bizarre.
Oui, voilà, et donc quand je les rencontre en première, d'abord moi je les connais, eux ne me connaissent pas.
Oui, mais déjà, vous les connaissez bien.
Oui, moi je connais le personnage qu'ils ont incarné, leur physique et tout ça. Il y a des différences, il y a... Oui, c'est toujours un peu étonnant, cette première rencontre-là.
Marie-Hélène Dozo était notre invitée dans Les Petits Papiers aujourd'hui. Elle est monteuse cinéma. Marie-Hélène Dozo, si on veut voir votre travail pour l'instant en cinéma, c'est Jeune Mère des Frères Dardenne que vous avez monté avec eux, comme tous leurs films depuis La Promesse. Est-ce qu'il y a d'autres projets qu'on pourra voir bientôt sur écran ?
Il va y avoir l'été de Jaya, Olivier Meys, qui est au Festival de Bruxelles ici fin du mois de juin, je pense. Il y a aussi Miles de Peter de Beuser, qui est aussi sélectionné, qu'on pourra voir. Et je pense qu'ils vont sortir dans la foulée.
Oui.
Voilà, il y aura sans doute le film de Joachim Lafosse aussi, le dernier, qui s'appelle 6 jours ce printemps-là.
Voilà pour la suite.
Allez voir Jeune Mère.
Allez voir Jeune Mère au cinéma.
Tiens,
je vous pose la question parce qu'on l'a beaucoup lu, on l'a beaucoup entendu. On a commencé cette émission en parlant d'émerveillement. Tout le monde parle d'un film différent pour les Frères Dardenne, d'un film beaucoup plus lumineux. Est-ce que c'est comme ça que vous le voyez aussi, vous, ce Jeune Mère ?
Oui. En fait, c'est... je pense que l'histoire, là, on en a déjà entendu beaucoup parler.
5 jeunes mères dans une maison maternelle,
dans
5
maison
adolescentes.
Maternelle,
voilà.
Qui sont là, chacune avec leurs problématiques, mais elles ont chacune un objectif. Et à la fin du film, on a l'impression qu'il y a des portes qui s'ouvrent.
Ouais,
et tout ça.
Y a
et
des
c'est
solutions
ça, je pense, qui amène vraiment la lumière. Et puis, il y a aussi quelque chose qui est un peu plus particulier, c'est qu'on les accompagne et elles se nourrissent l'une l'autre au cours de l'heure 45, je pense que ça fait. Et donc, c'est un parcours à 5 personnages, mais en même temps, elles s'entrecroisent vraiment et c'est très fluide au niveau des alternances de chacune de leurs histoires.
Quelle a été votre réaction aux premières images, pour boucler la boucle par rapport à l'émerveillement dont on parlait de la découverte ?
Mais je me suis dit que ça allait être un film où il allait y avoir beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions à gérer. Que c'était très émouvant, il y avait déjà des scènes voilà, où j'étais moi-même très émue, malgré que je visionnais des, voilà, tout ça dans un... Dans une matière de 40 heures, il y avait vraiment des scènes qui étaient vraiment là. Et je me suis dit que c'était ça qu'il fallait, sur lequel il fallait travailler. Amener le spectateur, voilà, à partager ses moments, à être en empathie avec ses films, ses filles, pardon. Et aussi, ce qui était très beau, c'est leur objectif. Elles avaient chacune un objectif. Et voilà, moi j'ai l'impression qu'en bout de film, elles touchent la porte qui va... qu'elles vont trouver des solutions, que ce qu'elles avaient envie de réaliser, elles vont le réaliser. En tout cas, je leur conseille.
Voilà, allez voir Jeune Mère montée par Marie-Hélène Dozo au cinéma, Jeune Mère des Frères Dardenne. Merci Marie-Hélène d'être
Merci
venue.
À vous.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Pour retrouver l'entretien complet de ces petits papiers du jour avec la monteuse cinéma Marie-Hélène Dozo, vous allez bien sûr parmi nos podcasts, vous trouverez l'entièreté de cette rencontre. Elle est d'ailleurs un peu plus longue en podcast que ce que vous avez entendu aujourd'hui, puisqu'on avait parlé un peu plus, on vous l'a laissé. Il y a bien sûr d'autres podcasts et il y a un mot tous les jours pendant tout le mois de juin, puisque cet été, les petits papiers seront quotidiens. On vous propose un mot pour annoncer l'été et découvrir les invités qui viendront nous rejoindre en juillet et en août. Voilà, tout ça c'est dans les podcasts des Petits Papiers. Et puis on revient la semaine prochaine après les infos de 17h sur la première. Une invitée musique, ce sera la chanteuse Jeanne Chéral qui nous accompagnera. Rendez-vous est pris donc dimanche prochain. Voici venir le journal de 18h et après Walid sur la première. Belle fin de journée.
Recherchez. Téléchargez l'app et vérifiez si vous avez gagné. Loto, parce que c'est possible.
La 3 en télé.
Fusillade, intimidation, guerre des territoires, notre pays est-il devenu le royaume des dealers?
Et si c'est vraiment le cas, doit-on l'accepter comme une fatalité? Retrouvez Julie Morel pour en débattre dans Le Grand Dossier, lundi soir sur La 3.
La première, météo.
Bon dimanche à toutes et à tous. Le soleil est revenu dans la plupart des régions. Il y a encore quelques nuages, un peu plus nombreux, c'est vrai, au sud des provinces de Namur et de Luxembourg. Ailleurs, de belles éclaircies. Le ciel est carrément dégagé en bord de mer. Et puis, les températures sont plus respirables, hein, vous l'avez remarqué, de 20 à 25 degrés. Voilà pour les températures actuelles. Et puis, la nuit prochaine, on va mieux dormir, hein, puisque les températures descendront entre 9 et 14 degrés. Une nuit très peu nuageuse et puis complètement sereine en seconde partie de nuit. On va donc se réveiller avec un beau ciel bleu ce lundi et puis quelques cumulus vont bourgeonner dans le ciel l'après-midi jusqu'à 25 degrés, notamment la capitale, peut-être même un peu plus en province de Limbourg, à Hasselt notamment, 20 degrés au littoral et 21 degrés en Ardennes. Mardi, ce sera la même journée, donc un ciel bien dégagé le matin, des cumulus qui bourgeonnent l'après-midi et puis le ciel qui se dégage en soirée jusqu'à 27 degrés sur le centre. Mercredi, encore moins de nuages et toujours 27 degrés sur le centre du pays. Jeudi, pratiquement aucun nuage dans le ciel et à partir de vendredi, des jours de chaleur à nouveau avec plus de 30 degrés à Bruxelles.
Il est 18h. Madame, monsieur, bonsoir. Mobilisation impressionnante cet après-midi.